Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif. Donc, mardi 17 octobre 2017, 19h. Et nous venons d'entendre le générique de notre première émission mensuelle. C'est le groupe d'Amnesty International d'Évreux. Et on vous retrouve, on le rappelle, deux fois par mois. Le dernier mardi du mois et 15 jours avant. Voilà, comme ça.
Ouais, faut calculer. Des fois, ça calculer. Change.
Et donc, avec nous ce soir, il y a Edith, que vous venez d'entendre.
Bonsoir.
Il y a Sabine.
Bonsoir.
Et il y a Ronan.
Bonsoir.
Voilà. Et il y a...
Et...
celui qui a déjà parlé.
Didier.
Celui qui a déjà parlé.
Mais Didier, on ne le présenterait plus.
Pour commencer l'émission, je vais vous poser une petite colle. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 40 ans, pour être précis, le 10 octobre 1977
oh bah moi, j'étais trop petite. Hein. Moi, je ne peux pas savoir.
Moi, j'étais pas née.
T'étais pas née.
Alors, on est vieux.
Moi, j'étais née.
Bon, c'est pas très, très vrai ce qu'on dit.
Je pense qu'on était tous nés.
Oui, oui,
bah, quand même. On peut toujours faire croire, on est à la radio maintenant.
D'abord.
Hein.
Bon, c'est vrai. Donc, alors, qui peut répondre à la question? Que s'est-il passé le 10 octobre 1977?
Bah, j'avais 10 ans.
T'avais 10 ans.
Moi, j'en avais un peu plus que toi.
Bon. Mais c'était pas le.
Mais on sait
pas. Est-ce que ça a rapport avec Amnesty?
Oui, bien
moi,
sûr.
Je pense,
bien
je pense. Sûr.
Amnesty France ou
Non, non, Amnesty International, mondial, international, comme son nom l'indique.
Ah, alors, est-ce que c'est quelque chose qui existe encore?
Oui, tout à fait.
Ah,
c'est repris tous les ans au mois d'octobre.
C'est ben pourquoi? Ah oui.
C'est un prix.
Un prix.
Est-ce
un
qu'on
prix.
On a gagné un prix.
On a gagné un prix, c'est ça.
Ah bon, moi je sais alors.
Moi je pense savoir aussi lequel.
Bon, Didier, dis-le. Puis on
c'est
va
pas
dire
le prix vrai. Nobel de la paix, non.
Et, c'est ça. Le 10 octobre 77, Amnesty International reçoit le prix Nobel de la paix pour son travail sur la protection des prisonniers politiques. Voilà. Donc, on est toujours très fiers de, même si ça remonte il y a 40 ans maintenant, on est toujours très fiers de cette distinction. Et je vais vous lire simplement quelques mots qui ont été mis dans le mensuel d'Amnesty par Camille Blanc, la présidente actuelle. Elle dit « Cette reconnaissance fut un levier extraordinaire contribuant au renforcement de la recherche et de la force militante de notre mouvement. En 40 ans, pourtant, le monde a muté. La chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, la révolution technologique et le développement exponentiel des réseaux sociaux, les printemps arabes et la généralisation des politiques sécuritaires face aux menaces terroristes. » Dans le même temps, les organisations de débat et de régulation telles que l'Organisation des Nations Unies ou la Cour pénale internationale se trouvent remises en cause. En prise avec ce monde en mutation, Amnesty International s'est elle aussi transformée. En 2001, sa mission s'est élargie à la lutte contre la violation des droits sociaux, économiques et culturels. Nous sommes engagés dans de nouveaux chantiers comme la responsabilité des entreprises en matière sociale et de défense des droits humains. Sans oublier pour autant nos combats historiques, malheureusement toujours d'actualité. Dans le domaine des droits civils et politiques, qu'il s'agisse de l'abolition universelle de la peine de mort, de la lutte contre la torture ou de justice internationale. Et justement, donc ça c'était pour citer Camille Blanc, et justement par rapport à la peine de mort, je crois que Sabine et Edith ont prévu de vous en parler ce soir dans l'émission, de faire un point sur la situation actuelle de la peine de mort. Et on va parler aussi de l'Afghanistan, puisqu'il s'avère que l'Union européenne renvoie de plus en plus de ressortissants et de demandeurs d'asile afghans dans des conditions qui sont extrêmement contestables. Je vais vous en parler. On va parler aussi de bonnes nouvelles, c'est comme Ronan a toujours le secret. Sabine va vous parler aussi de réfugiés soudanaises en Ouganda. Et puis, nous aurons nos infos locales.
Et puis, il y aura quelques surprises.
Et puis, peut-être quelques surprises, un petit peu de musique, bref, voilà. Donc, le programme jusqu'à 20h. Pour commencer, donc, Sabine et Edith, la peine de mort, c'est à vous.
Alors, avant la peine de mort, une autre petite devinette. 17 octobre, ça vous fait penser à quoi? C'est quoi?
C'est aujourd'hui.
Ça faisait 7 jours qu'Amnesty avait le prix Nobel de la paix.
Eh bien, c'est aussi la journée du refus de la misère.
C'est la misère. Je pense
que c'est
misère.
Pas mal aussi de le redire. Voilà.
Tout à fait.
Parce que les droits économiques et sociaux, c'est aussi ça.
Ouais. Complètement. Tout et Amnesty a déjà participé à des initiatives par rapport à ça aussi.
Voilà, par rapport à un groupe à tête avec Armande et d'autres
partenaires. Et plus on avance dans le temps, et plus il y a du boulot à ce niveau-là.
Alors, effectivement, on avait envie avec Sabine de faire un point sur l'état de la peine de mort au niveau mondial. Alors, la peine de mort, eh bien, déjà, il faut vous dire quelque chose. C'est que pour être militant Amnesty, il faut déjà être contre la peine de mort. Ça vous semble complètement logique par rapport à ce qu'on vous dit régulièrement. Mais on sait que c'est un sujet qui amène des réflexions, des inquiétudes auprès de certaines personnes, même si ces personnes-là sont très, très intéressées par les droits humains. Donc Sabine, je pense qu'on va faire un petit état des lieux rapide sur des chiffres, mais oui. Après on va parler.
C'est la défense de la vie avant tout. Quand on défend les droits humains, ça me paraît essentiel. Alors quoi dire sur la peine de mort en 2016 ? Il y a eu 1032 personnes qui ont été exécutées dans 23 pays, ça fait à peu près un pays sur 8 au niveau de l'échelle mondiale. En 2015, il y en avait eu 1634. Donc on peut dire qu'il y a eu une petite baisse, mais bon, c'est encore énorme. Cette année encore, c'est en Chine qu'on a exécuté le plus grand nombre de prisonniers, même s'il s'avère impossible d'obtenir des chiffres précis sur l'application de la peine capitale dans le pays. Donc, c'est des chiffres à prendre un peu entre guillemets, hein, quand même, parce que...
Malheureusement, ça doit être plus, Sabine. Ça doit être plus.
Voilà. Hein. Hormis la Chine, 4 pays seulement sont responsables d'à peu près 87% des exécutions qui ont été recensées. À savoir l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Irak et le Pakistan. 141 pays, soit plus des deux tiers des pays du monde entier, sont à ce jour abolitionnistes en droit ou dans la pratique. En 2016, 2 pays, le Bénin et Nauru, ont aboli la peine de mort pour tous les crimes. Donc il y a une petite avancée. Et nous avons recensé 3117 condamnations à mort dans 55 pays en 2016, ce qui représente une forte augmentation par rapport à 2015, où il y en avait eu 1998. 18848 fin 2016, 18848 personnes se trouvaient encore sous le coup d'une sentence capitale. Il y en a qui le sont encore. On parlera tout à l'heure d'une pétition.
Voilà.
Donc ça représente quand même...
C'est le chiffre de tous les condamnés à mort d'année après année qui ne sont pas exécutés et qui sont dans les prisons avec la condamnation.
Et peut-être en attente d'une condamnation qui peut tomber ou d'une exécution qui peut arriver à tout moment.
Ce qui est une forme de torture aussi.
Aussi, oui, parce que c'est une attente infernale, quoi, sans jugement, sans projection, sans préparation, que ce soit pour les familles ou pour eux-mêmes.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Sabine ? Un petit jeu de rôle ?
Oh oui, oh oui. On va essayer de traiter un sujet difficile de forme moins difficile.
Voilà, essayez de voir un peu qu'est-ce qu'on peut dire à des personnes qui me disent bah oui, mais attends, la peine de mort.
Il y a des raisons pour l'appliquer.
Oui. Donc il y en a beaucoup qui disent que les familles de crimes violents et leurs familles ont le droit à la justice.
Eh bien sûr qu'ils ont le droit à la justice. Ceux qui ont perdu des êtres chers dans des crimes horribles ont droit de voir les responsables rendre des comptes dans le cadre de procès équitables sans recours à la peine de mort. En s'opposant au châtiment de la peine de mort, il ne s'agit pas de réduire l'importance du crime ni de le cautionner. Cependant, de nombreuses familles ayant perdu des êtres chers affirment que la peine de mort ne permet pas réellement de soulager leur souffrance. Elle ne fait qu'étendre la souffrance de la famille de la victime à celle du condamné.
Oui, la vengeance n'est pas la solution. La réponse consiste à réduire la violence et non à donner encore la mort.
Si je peux faire un petit...
De Marie Deans, Marie Deans, dont la belle-mère a été assassinée en 1972.
Si je peux faire un tout petit commentaire sur ce qui vient d'être dit, effectivement, c'est qu'il faut bien se rendre compte que le fait d'exécuter quelqu'un est une vengeance.
Oui.
Et ce n'est pas la justice, c'est la justice dans aucun droit d'aucun pays. La notion de vengeance existe.
Voilà. Tu viens de prendre la phrase.
C'est pas grave. C'est pas grave.
Je mettrai le papier entre nous trois.
Laisse les filles gérer le truc.
C'est pas grave.
Laisse les filles gérer.
Donc effectivement, l'une des réflexions que l'on peut donner, c'est exécuter une personne parce qu'elle a pris la vie de quelqu'un d'autre, c'est une vengeance. Tu es d'accord avec moi, Didier?
Tout à fait.
Cela n'a rien à voir avec la justice. Une exécution ou la menace d'une exécution inflige une terrible cruauté physique et psychologique. Et alors, si on s'éloigne un petit peu pour réfléchir plus, toute société qui exécute des délinquants se rend responsable de la même violence que celle qu'elle condamne.
Tout à fait.
Alors, attention Sabine, un autre argument.
Alors, la peine de mort, c'est pour lutter contre la criminalité, nous dit-on.
Ah ben ça, oui, on l'entend souvent.
C'est un effet dissuasif, quoi, c'est ça,
Et il y a même des pays qui mettent ça en exergue pour dire qu'ils ont besoin de la peine de mort.
Il y en a même qui payent pour tuer.
Mais d'après les recherches...
Les Philippines, entre autres.
Et les recherches dans plusieurs pays, non. On est désolé, il n'y a aucune preuve crédible que la peine de mort soit plus dissuasive qu'une peine d'emprisonnement. En fait, dans les pays qui ont interdit la peine de mort, les chiffres relatifs à la criminalité n'ont pas augmenté. Même dans certains, il y a un témoignage là au Canada qui avait aboli la peine de mort en 1976, le nombre d'homicides a baissé dans les années 2008. Bon, voilà. Donc, il faut absolument ne pas écouter cet argument-là. Dans aucun pays, ça n'a pu avoir un effet positif.
Oui, mais et la peine de mort pour les terroristes?
Ah ben oui, ça va. C'est sûr, ma petite dame, pour les terroristes, on en parle. Eh bien, les gouvernements qui ont souvent recours à la peine de mort à la suite de violentes attaques pour démontrer qu'ils font quelque chose pour protéger leur sécurité nationale. Oui, je ne suis pas sûre d'avoir bien lu la phrase. Mais donc, effectivement, c'est une façon de dire, voilà, on vous protège, on tue les terroristes.
Ben oui.
D'ailleurs, mais il est peu probable que la menace d'exécution arrête des hommes et des femmes terroristes. Ils sont prêts à mourir pour leurs convictions, comme des kamikazes. Donc, ce n'est pas ça qui va les arrêter. Leur dire, la peine de mort pour les terroristes, malheureusement, les kamikazes continueront à faire leur horrible action. Mais il y a en revanche... fort probable que des exécutions en face des martyrs, dont la mémoire contribueront à rallier davantage les partisans au sein de leur organisation.
Donc ça voudrait dire que en fait, c'est appliquer la peine de mort va favoriser le terrorisme, quand on réfléchit bien.
On pourrait, de toute manière, voilà, effectivement, je pense que la notion d'en faire des martyrs...
Complètement, ça va dans leur sens.
C'est ce qu'ils recherchent.
Alors, Jan van Rooyen, qui est professeur de droit en Afrique du Sud, nous dit que la peine de mort est un moyen facile, utilisé par des responsables politiques pour faire croire à leurs électeurs apeurés qu'ils luttent contre la criminalité. Alors, est-ce qu'il vaut mieux exécuter quelqu'un plutôt que de l'enfermer à vie?
Problème. Ah ben, on meurt vite, mais on est enfermé, ça coûte cher. Ronan, il me fait le signe comme ça que ça coûte des sous. Mais oui, et puis pendant...
Mais ça se voit pas à la radio quand tu fais ça.
Voilà, mais c'est monnaie. Hein.
Moi, je reste discret.
Ça coûte des pépettes.
Donc
c'est ce qu'on entend souvent. Hein.
Voilà. Donc chaque jour, des hommes, des femmes et même des mineurs attendent leur exécution dans les quartiers des condamnés à mort. Sabine nous en a dit, il y en avait combien tout de suite? 18 000 dans le monde entier.
18 848 qui sont en attente.
Quel que soit le crime commis, qu'il soit coupable ou innocent, un système judiciaire ayant fait le choix de la vengeance plutôt que la réinsertion peut leur ôter la vie. Tant qu'un prisonnier reste en vie, il peut espérer une réinsertion, être disculpé ou être connu innocent. Et aux États-Unis, je n'ai pas le nom en mémoire, mais il y a eu un noir américain qui a été emprisonné et des analyses ADN, emprisonné et exécuté. Des analyses ADN ont démontré qu'il était innocent. Oui, malheureusement,
il y en a plusieurs, un certain nombre. Les chiffres officiels aux États-Unis du ministère de la Justice, c'est 20% des gens qui sont condamnés à mort n'ont pas commis le crime pour lequel ils ont été condamnés.
Voilà. Donc,
20%.
Et les autres 80%, on n'a pas forcément cherché à savoir.
Oui. Voilà.
Donc, il faut mieux rester enfermé à vie. Voilà. c'est pas un argument aussi qui tombe à l'eau. Même si ça coûte des sous, effectivement, Renan, ça peut être aussi un...
Oui, mais j'avais lu un truc, justement, au niveau de l'Amérique, ça coûte des sous, mais je sais que les produits qu'ils injectent, tout ça, ça coûte une fortune aussi.
Bah, les Américains ont fait des études...
Justement
bah, vous allez en parler.
Mais il existe des méthodes d'exécution rapide, humaine et indolore. Alors... Pourquoi les utilisons-nous pas ? Nous les utilisons
eh bien parce
pas.
Que toute forme d'exécution est déjà inhumaine et que l'injection létale est souvent présentée comme la plus humaine parce que bah, on voit pas grand-chose. Hein. Elle sent moins barbare que la décapitation, l'électrocution, le gazage ou la pendaison. Mais il faut pas se voiler la face. Rechercher un moyen humain d'ôter la vie est quand même, comment dire, un petit peu opposé et revient à tenter de rendre les exécutions plus acceptables pour la population au nom de laquelle elles ont lieu, et de permettre au gouvernement d'exécuter, qui exécute, de ne pas passer eux-mêmes pour des tueurs. Et effectivement, on va parler aussi aux États-Unis de toute cette problématique des produits létaux et des usines qui ne veulent pas trop actuellement fournir...
Des laboratoires qui sont en cours.
Je crois qu'en Europe, ils ont...
Voilà, l'Europe a interdit l'exportation des produits létaux aux États-Unis.
Au niveau des États-Unis, il y a aussi beaucoup de difficultés parce que voilà, les produits ne sont pas forcément efficaces. Donc la mort, on la voit.
Et ils étaient en rupture de stock.
Pour les produits, tu veux dire.
Mais pas pour les condamnés.
Par rapport au labo.
Pas pour les condamnés.
Non, mais bon, s'ils sont en rupture de stock longtemps. Voilà.
Malheureusement, ils trouveront une autre solution.
Je dis bien que ces questions ne viennent pas de moi. Je suis très mal.
Mais je pense que ce que voulait dire Renan tout à l'heure, je vous interromps encore une fois, mais c'était qu'aux États-Unis, il y avait une étude de fait prouvant que le fait d'exécuter les gens coûtait plus cher. Alors, c'est un calcul un peu sordide, mais coûtait plus cher que d'enfermer les gens à vie avec les recours en justice possibles, les différentes démarches, les différentes cours qui siègent, et qu'en fait, c'était moins onéreux de garder quelqu'un en prison que de l'exécuter.
C'est vrai que tu exprimes mieux que moi, c'est tout à fait ça que je voulais dire.
Voilà.
Alors, un affreux encore argument, François. Sabine.
Mais les gens sont favorables à la peine de mort.
Ah bon ?
Il paraît.
Il y a même des candidats aux présidentielles qui s'étaient déclarés favorables au rétablissement de la peine de mort.
Par rapport à ce qu'on vient je vous jouer un peu là en jeu de rôle, je pense qu'on peut dire que la population manque d'informations. D'informations fiables sur le sujet. Et le plus souvent, l'idée erronée que la peine de mort réduirait la criminalité. Donc là, effectivement, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des réflexions. Il y ait aussi des gouvernements qui acceptent de s'offrir à toute information et qu'il y ait un programme aussi d'éducation publique. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir un réel débat sur la peine de mort. Et que toute décision... pour procéder à une exécution, ne peut pas être mise entre les mains de l'opinion publique. C'est les gouvernements qui doivent montrer la voie et doivent aussi montrer la voie de la discussion.
Tout à fait. Et on ne peut effectivement que répéter tous ces arguments-là que vous avez listés, parce que ce sont des fondamentalement importants. Et ça m'a rappelé une phrase que j'avais lue dans un bouquin d'Albert Camus, dont j'ai oublié le titre, le bouquin... et qui parlait, Albert Camus, qui a longtemps milité pour l'abolition de la peine de mort. Enfin, quand il est mort en 1960, je crois, la peine de mort était toujours appliquée en France, bien sûr. Et Albert Camus avait dit dans un de ses livres contre la peine de mort en disant qu'il fallait pas sombrer, effectivement, comme on le disait au début, dans la vengeance par rapport à la justice d'État. Et qu'il avait dit que tout ce qui fait la noblesse de l'homme, de l'être humain, de la condition humaine, c'était par rapport à des drames comme ça, c'était le fait de pouvoir se retenir. C'est-à-dire, effectivement, de pas tomber dans la vengeance. Il avait employé cette phrase, quand on est humain, on se retient.
Et quand tout à l'heure tu parlais par rapport à la France de Badinter et d'une émission qui a eu
samedi dernier sur
Alors,
Arte.
Elle est peut-être encore sur Arte. Arte plus
elle
7.
Est sur Arte plus 7, tout voilà. à fait. Et une émission de philosophie où il y avait Maître Badinter qui était invité parce que le thème c'était effectivement la peine de mort. Et tous ces arguments-là ont été très très bien remis sur le devant par Maître Badinter et par les gens qui faisaient l'émission. Et donc effectivement, et Robert Badinter insiste toujours en disant, faut bien se rendre compte que quand on exécute quelqu'un, comme la guillotine qui est employée en France, ça revient à couper un être humain en deux. Et celui, c'est son argument mastoc, si on pourrait dire, enfin son argument massu. À chaque fois, il dit, la peine de mort, c'est couper quelqu'un de vivant en deux. Donc c'est un crime. Voilà. Donc, on y revient tout à l'heure à la peine de mort ou on n'y revient pas tout à l'heure dans l'émission?
Si, on y revient tout à l'heure. On y revient tout à l'heure sur l'état du monde rapidement, un petit peu voilà. Par continent.
Bon, il y a Renan qui va vous donner une bonne nouvelle après ces considérations un peu dures.
Alors, une bonne nouvelle, c'est je vais partir en Arabie Saoudite. Alors, une bonne nouvelle qui est comme.
J'ai parlé de l'Arabie Saoudite pour la peine de mort, attention.
Ouais, mais moi, ça n'a rien à voir la peine
alors,
de mort.
Alors, la bonne nouvelle, on en a besoin.
C'est par rapport aux femmes, quoi.
Ah oui.
Quand on imagine que maintenant, en Arabie Saoudite, les femmes peuvent enfin conduire. C'est vrai que pour nous, ça paraît complètement absurde.
Elles vont pouvoir les écraser.
Donc, le gouvernement saoudien va autoriser les femmes à conduire. Une victoire pour les nombreuses personnes qui militaient depuis de nombreuses années pour obtenir ce droit. Cependant, ce décret n'entrera en vigueur que le 23 juin 2018. Et il précise qu'il sera appliqué selon les règles juridiques établies. Alors pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'il y aura dans ces règles juridiques établies.
Non, mais les femmes, elles vont suivre l'affaire,
mais,
là.
Mais il s'agit d'un simple pas en avant, parce qu'il est également nécessaire que soit supprimée en Arabie Saoudite toute une série de lois et de pratiques, notamment le système de tutelle qui impose à chaque femme un tuteur qui peut être son père, son frère, son mari ou son fils, qui prend des décisions à sa place.
Et souvent pour sortir dans la rue et l'accompagner.
Tout à fait. Donc ils ont le droit de conduire en voiture, mais là quand même, il faut demander. Imagine une femme doit demander à son fils si elle a le droit de sortir. Quoi.
Il va falloir les mettre dans le coffre.
Hein. Bah, va falloir éduquer les garçons différemment. Ça serait bien quand même.
Les accompagnateurs.
Ça, je soutiens entièrement le commentaire d'Edith à l'instant. C'est vrai que nous, en tant qu'hommes, là, je me mets dans le lot, hein, là, pas en tant que militant d'Amnesty, mais en tant qu'hommes, il y a effectivement, enfin, je veux dire, il faut arrêter ce genre de.
Complètement.
C'est dingue, quoi. Enfin, je veux dire, il faut vraiment qu'on se remette en cause, ou que les hommes de ces pays-là se remettent en cause. Et malgré tout ce qu'on entend dire, effectivement, il y a des gens qui remettent beaucoup de choses en cause.
Ouais, parce que là,
y compris chez eux.
Oui, complètement. Devoir une femme devoir demander à son gamin, c'est vraiment.
Eh oui, eh oui.
Mais bon, il y a comme un pas en avant, elles ont le droit de conduire, selon le décret qui rentrera en vigueur en juin 2018.
On peut reprendre la phrase que j'ai citée de Camus tout à l'heure, là c'est plus pour l'abolition de la peine de mort, mais c'est quand on est un homme par rapport à ce genre de discrimination des femmes, quand on est un homme et qu'on veut les appliquer, on se retient si on est un être humain. On passe quelques minutes de musique et après on va parler de l'Afghanistan, je crois. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. We hurt each other. Retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International Évreux pour la suite de son émission mensuelle, la première. Donc on vient d'entendre U2, hein, c'est pas un morceau très récent, mais c'est toujours très bien. Et U2, un morceau qui s'appelle One. Donc je vais vous parler de l'Afghanistan, et je vais commencer par citer une phrase que voici. « J'ai tellement peur que je n'ose même pas emmener mes enfants sur la tombe de leur père. » Et c'est une personne qui s'appelle, une jeune femme qui s'appelle Sadeka, et qui parle comme ça. Alors, pourquoi je vous parle d'elle ? Eh bien, c'est parce que le mari de Sadeka, qui s'appelle Hadi, avait été enlevé en 2015 en Afghanistan par un groupe qui lui reprochait l'activité qu'il exerçait. Il avait été libéré moyennant le versement d'une rançon. À sa libération, il était tellement mal en point, en raison des violences qu'il avait subies, qu'il n'avait pas pu parler pendant plusieurs jours. Une fois qu'il a été rétabli, Hadi, Sadeka et plusieurs autres membres de leur famille, dont un enfant en bas âge, ont fui l'Afghanistan, craignant pour leur vie. Après un difficile et périlleux voyage de plusieurs mois, ils sont arrivés en Norvège, où ils ont déposé une demande de protection internationale. Celle-ci a finalement été rejetée. Les autorités norvégiennes ont alors donné à la famille Sadeka le choix entre être envoyés de force en Afghanistan, après avoir passé un certain temps en détention, ou accepter de rentrer, dans le cadre d'une procédure dite de retour volontaire assisté. Solution lui évitant la détention et assortie d'un versement de l'ordre de 10 700 euros. Nous avons donc accepté de repartir et décidé de redémarrer à zéro. Nous n'avions pas le choix, a expliqué Sadeka aux chercheuses d'Amnesty International. La jeune femme et sa famille sont arrivées en Afghanistan au milieu de l'année 2016. Donc ils avaient fui l'Afghanistan qu'ils avaient fui un an avant. Hadi a trouvé du travail dans un secteur différent de celui qui était le sien auparavant, en cherchant à se faire discret. Mais quelques mois après son retour de Norvège, il a disparu. Sadeka a appris quelques jours plus tard que son mari avait été tué. Elle est persuadée que les personnes qui l'avaient déjà enlevé une première fois sont responsables de sa mort. Elle a confié aux chercheurs d'Amnesty International que sa famille et elle vivaient cachées en Afghanistan, ne quittant jamais leur maison, terrorisés au point d'avoir peur de se rendre sur la tombe de Hadi. Voilà, donc il vient de paraître un rapport fait par Amnesty sur les expulsions qui ont lieu actuellement en Europe, et c'est pour ça que je vous en parle, dans le cadre de des pays membres de l'Union européenne, des expulsions de ressortissants afghans qui ont fait des demandes de réfugiés, qu'on leur refuse, et qui sont renvoyés en Afghanistan, sous prétexte que l'Afghanistan est redevenu...
Il n'y a plus de danger en Afghanistan.
Voilà, est devenu peu ou prou un pays sûr. Cette fameuse notion de pays sûr. Voilà. Alors, dans le rapport, il est précisé que l'Afghanistan, ça c'est Amnesty qui parle, l'Afghanistan est actuellement en proie à un conflit de type non international entre les éléments hostiles au gouvernement et les forces favorables à ce dernier. Parmi les éléments hostiles au gouvernement figurent les talibans et le groupe qui se fait appeler État islamique, sachant que plus d'une vingtaine de groupes armés opèrent sur le territoire afghan. 20 groupes armés. Plusieurs rapports d'experts de l'ONU, ainsi que diverses autres sources, indiquent que le conflit en Afghanistan s'est aggravé au cours des deux dernières années, et avec lui les conséquences pour les civils. Selon la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan, donc qui dépend de l'ONU, 2016 a été l'année la plus meurtrière jamais enregistrée en Afghanistan pour les civils, avec 11 418 personnes tuées ou blessées. Donc, comme disait effectivement Edith, mais 11 400 personnes tuées, c'est un pays sûr.
Mais ça voudrait nous dire qu'on nous a menti, parce que moi j'ai cru comprendre que depuis qu'on était en Afghanistan, nous les Américains, tout ça, c'était mieux.
Oui.
C'est ce qu'on essaie de faire croire aux gens. Moi j'entends beaucoup de gens autour de nous qui disent ça, on a peut-être oublié un petit peu.
C'est pas les mêmes qui disaient que la peine de mort c'était un truc.
C'est peut-être les mêmes, mais c'est vrai que pour l'instant on va.
C'était dissuasif.
On va plus parler de la. C'est vrai qu'actuellement les informations, on va plus parler de la Syrie, tout ça, mais l'Afghanistan, ça n'a pas bougé, ça a même empiré.
C'est ça, empiré, oui.
Alors, parmi les régions particulièrement instables, on va dire, en Afghanistan, il y a la province de Kaboul, qui est la province de la capitale. Et en fait, il y a à peu près 10 provinces sur 16 que compte le pays qui sont considérées par l'ONU comme étant particulièrement dangereuses. 10 sur 16. Donc, parallèlement au grave danger que le conflit actuel fait courir à tous les Afghans, un grand nombre de personnes vivant en Afghanistan sont également confrontées à un risque particulier de persécution. Parce qu'on ne tue pas forcément les gens, effectivement. On les intimide, on les persécute, on les fait disparaître, on les torture. Et la torture constitue un autre fléau qui affecte l'Afghanistan. En 2017, le Comité des Nations Unies contre la torture, là aussi une instance tout à fait officielle, chargé de veiller à l'application de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, s'est dit gravement préoccupé par le climat général d'impunité et la culture correspondante qui régnait en Afghanistan concernant les actes de torture. Donc c'est un pays sûr, avec plein de groupes armés, et qui torture. Et d'autre part, il est rare que les auteurs d'atteinte aux droits humains, donc entre autres les gens qui torturent, aient à rendre des comptes pour leurs actes. Bah oui, forcément, hein. Mais comme tu disais, Edith, à part ça, c'est dissuasif. L'Afghanistan est par ailleurs le théâtre d'une crise humanitaire aiguë. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, 9 300 000 personnes auront besoin d'aide humanitaire sur l'ensemble de l'année 2017. Plus de 9 millions d'Afghans ont au mieux un accès limité aux services de santé les plus élémentaires. Les taux de mortalité maternelle et infantile, respectivement de 327 pour 100 000 et de 73 pour 1000 enfants nés vivants, figurent parmi les plus élevés de la planète. La sécurité alimentaire est de plus en plus menacée. Alors, malgré tout ce tableau, eh bien, en Europe, la proportion de réponses favorables données aux demandes de protection internationale formulées dans des pays européens par des Afghans est en nette diminution depuis plusieurs années. Elle est passée de 67% en 2015 à 56% en 2016. Cette évolution est encore plus marquée entre septembre 2015, où le nombre de refus atteint 68%, et décembre, le nombre d'acceptation, pardon, de réfugiés afghans est passé de 68% donc en septembre 2015 à 33% en décembre 2016. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, en Europe, 33% des Afghans qui font une demande de réfugiés sont acceptés. Ce qui veut dire que 70% sont rejetés, dont la femme dont on parlait tout à l'heure, et qui est retournée chez elle, et dont le mari a été tué.
Tu pourrais dire qu'à ce moment-là, on choisit un petit peu au hasard ?
On choisit au hasard, pas vraiment, oui, enfin, c'est des critères effectivement d'acceptation des réfugiés ou pas, c'est toujours très compliqué à savoir, hein, quels que soient les ressortissants des pays. Mais en tout cas, il y a des directives tacites au niveau de l'Europe pour refuser de plus en plus de réfugiés afghans. Alors là, j'ai déjà un petit tableau sous les yeux. Bon, c'est pas très radiophonique, mais la France...
Alors, il y a du jaune, du vert, voilà. Et il a entouré des trucs.
Voilà. Alors, je vais vous parler de la France. La France qui, en 2015, a renvoyé un peu moins de 500 Afghans chez eux. Et en 2016, entre, disons, 700 à 800, le chiffre n'est pas très précis, mais 700 à 800 personnes ont été renvoyées. C'était une augmentation. Mais le pays le plus marquant, c'est l'Allemagne. Alors l'Allemagne qui a fait de gros efforts avec des réfugiés venant de Syrie et autres pays du Proche-Orient, ce qui est vrai, mais vis-à-vis de la population afghane, c'est absolument catastrophique. L'Allemagne, elle est passée de un peu moins de 500 expulsions d'Afghans en 2015 à près de 3500 expulsions en 2016, en un an. On est passé de 500 à 3500, qu'on renvoie vers un pays sûr, comme il était dit tout à l'heure. Alors pourquoi cette évolution-là ? On pense, d'après le rapport d'Amnesty, Il y a différentes raisons qui amènent à ça. Il y a bien sûr la crise des réfugiés, dont on vous a déjà parlé, dont on vous reparlera, effectivement, qui a l'Union européenne ayant vu en 2015 un nombre inédit, comme dit Amnesty, de personnes, plus d'un million, qui sont arrivées en Europe de manière irrégulière, pour la plupart, et après une dangereuse traversée depuis les côtes de Turquie. Ça, on est tous au courant de cette situation-là. Donc, face à cet afflux de réfugiés, l'Europe a décidé, de tailler un peu dans la masse et de considérer que les Afghans, effectivement, étaient des personnes qui étaient devenues indésirables. Et parmi ce million de réfugiés qui est arrivé en 2015, seulement 20%, 200 000 personnes, étaient originaires d'Afghanistan. Donc, effectivement, c'est considéré comme portion négligeable. Et il y a une autre raison qui est beaucoup plus sordide, qui est citée dans le rapport d'Amnesty, même si ce n'est pas très sûr au niveau de l'information, ça demande à être confirmé, mais il y a quand même des choses qui se recoupent.
Il n'y aurait pas des petits accords.
Voilà. Il y a un accord qui a été signé, qui s'appelle l'Action conjointe pour le futur, entre l'Europe et l'Afghanistan. Alors officiellement, c'est effectivement pour préparer dans de bonnes conditions, c'est ce que dit le rapport, que dit l'accord du moins, pour préparer dans de bonnes conditions le retour dans leur pays des ressortissants afghans qui ont fait des demandes de réfugiés. Action conjointe pour le futur, c'est un beau titre. Ouais, on considère qu'ils ont ces gens-là ont un futur.
Mais quand on entend ce qu'a dit tout à l'heure, je ne vois pas comment ils peuvent revenir dans des bonnes conditions.
Voilà.
Le problème, c'est pourquoi l'Europe considère que c'est des bonnes conditions.
Voilà, parce que par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, je ne vois vraiment pas...
Il y a une autre raison, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'Afghanistan, qui est un pays qui est en guerre depuis...
J'ai toujours connu. Les Américains et tout le monde là-bas.
Voilà. Qui est en grande partie, dont les villes sont en grande partie en ruine, enfin, etc., à cause de tout ce qui s'est passé, qui est dans un état économique absolument épouvantable. Et les Américains, effectivement, aussi, l'armée américaine, du moins, y a participé largement, mais c'est pas les seuls.
Les Russes, ils se sont cassés les dents là-bas.
Donc, l'Afghanistan, pour son économie, dépend étroitement de l'aide internationale, qui représente à l'heure actuelle environ 70% des revenus de l'État. Les revenus de l'État afghan sont effectivement à l'heure actuelle de 70% versés par l'étranger, dont l'Union européenne. Et l'Union européenne considère en gros que si le gouvernement afghan ne donne pas suite à cette action conjointe pour le futur, c'est-à-dire au retour des réfugiés de façon plus ou moins arbitraire, plutôt plus que moins, eh bien les subsides vont être coupés. Donc le gouvernement afghan n'a pas d'autre solution que de se plier à ce chantage économique. Et à l'heure actuelle, il y a un ministre qui a considéré, alors je vais vous retrouver la phrase, que si l'Afghanistan ne coopère pas avec les pays de l'Union européenne, donc dans le cadre d'action conjointe pour le futur, a déclaré le ministre d'économie qui s'appelle Monsieur Hakimi, cela aura des conséquences négatives pour le montant de l'aide allouée à notre pays. Et on estime qu'à l'heure actuelle, il y a en gros un prêt envisagé de 200 millions d'euros pour des travaux d'ouvrage public. Il y a un prêt de 200 millions d'euros qui doit être fait par l'Europe et que, à la clé, si l'Afghanistan veut bénéficier de ces 200 000 euros, ils sont donc priés de réintégrer un maximum de réfugiés.
C'est scandaleux.
Voilà. Donc,
en fin de compte, c'est toujours l'être humain qui est pris en otage.
Si tu prends le premier exemple, il a été tué, le pauvre monsieur qui est rentré alors qu'il avait bien dit qu'il était menacé dans ce pays.
Tout à fait. Alors donc, à l'heure actuelle, Amnesty International, effectivement, se dresse toute énergie debout, on peut dire, contre cette situation-là. Il y a une grande campagne qui vient d'être menée, il y a une pétition.
Ah, c'est la question que j'avais posée.
C'est dans la campagne J'accueille, enfin I Welcome, par rapport aux réfugiés.
Amnesty n'est pas seul, je pense.
Non, Amnesty n'est pas seul. Il y a la CIMAD aussi qui participe pour Amnesty France, et c'est repris sur le site international, parce que le dossier dont je vous parle, il est en ligne sur le site d'Amnesty. Amnesty.org, qui est le site international d'Amnesty. Et vous allez aussi sur le site d'Amnesty France, amnesty.fr, vous avez la pétition. Voilà. Alors la pétition qui est adressée aux autorités françaises et qui, je vais vous lire simplement le titre, c'est suffisamment, donc qui est co-signé par Amnesty International et la CIMAD et qui s'appelle « Halte aux expulsions vers l'Afghanistan » et qui est adressée à Monsieur Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. Donc elle est la signée, c'est qu'un premier aspect de l'action, il y aura des suites, mais sachez qu'à l'heure actuelle, il y a effectivement énormément d'Afghans qui voient leur statut de réfugié rejeté pour des raisons assez sordides qu'on vient de vous lister.
Et je pense que ce n'est que le début d'une ère
Bon, j'ai envie là, de faire une petite bonne nouvelle.
Oui.
Quand même.
Oui.
Là, t'es en Afghanistan, je vais partir en Grèce. Il y a une loi qui a été adoptée. Quelle loi a été adoptée en Grèce le 10 octobre? Tiens, moi, je pose une question.
Le 10 octobre, c'était le prix Nobel pour Amnesty International, on l'a dit au début. Même en Grèce aussi.
Non, la loi qui a été adoptée.
La loi? Le 10 octobre, je ne sais pas.
Non,
C'est contre la discrimination.
Il y a une loi adoptée le 10 octobre établit expressément que les personnes transgenres peuvent changer d'état civil sans que les interventions des examens médicaux ne soient nécessaires. Cette réforme est une victoire pour les défenseurs des droits des transgenres en Grèce qui se battent depuis des années pour le respect des droits des personnes transgenres. Alors, tu me déçois, Didier, de ne pas avoir...
Écoute...
Non, mais il était resté sur la gagne.
C'est une grande avancée,
Je n'ai jamais prétendu être incollable.
Non, je
la
sais bien.
La preuve...
Bon, je pense qu'un petit morceau musical, ça serait bienvenu.
Tout de suite ? On avait dit qu'on parlait de la peine de mort, la suite.
Un petit état de la peine de mort, et après, on va se
mettre une petite... Voilà, pas de soucis. Voilà.
Alors, la peine de mort, donc, ce que je voulais vous continuer pour faire un dossier un petit peu complet, c'est... l'État par continent. Donc, je vais aller assez rapidement vous dire un peu les infos que j'ai trouvées, que je ne connaissais pas. Par exemple, alors là, je suis sûre qu'il n'y en a aucun qui peut répondre. Qui a été le premier... Il triche sur ma feuille.
Vas-y.
A été le premier pays à faire table rase de ce châtiment?
La peine de mort?
En 1863.
La Suisse.
Eh bien, il faut traverser, il faut aller en Amérique du Sud, c'est le Venezuela.
C'est vrai ?
Eh oui.
Eh bien, je ne savais pas non plus,
j'aurais jamais trouvé.
Voilà, donc il y a quand même très longtemps. Donc là, on va arriver donc à Amérique du Sud, faire un peu l'état des lieux. Eh bien, effectivement, c'est un continent tout à fait en avance, parce qu'en 1945, dans les 8 pays abolitionnistes, il y en avait 6 qui étaient en Amérique du Sud et Amérique centrale. Actuellement, il y a 2 autres pays qui ont aboli la peine de mort, en plus la République dominicaine et le Honduras. Il n'y a pas eu d'exécution sur ce continent depuis 2009. Il reste les Grandes Caraïbes, c'est vraiment en plus là une tendance forte en défaveur de la peine de mort. Donc les Grandes Caraïbes, c'est toutes les îles au niveau de la mer des Caraïbes. Il reste juste le Guyana. Petit pays, Amérique centrale. Qui reste.
C'est en bas à gauche.
qui reste, lui, avec la peine de mort. Il y a aussi, quand même, la commission interaméricaine qui a vraiment amené des réflexions au niveau des tribunaux nationaux et régionaux. La peine de mort bénéficie d'un fort soutien. Même s'il y a des taux d'homicide importants dans ces pays, donc on peut dire que là aussi, effectivement, c'est pas parce qu'il y aurait la peine de mort qu'il y en aurait plus, qu'il y en aurait moins. C'est malheureusement un état des lieux de certains pays. Mais l'Amérique du Sud, on va dire, à peu près bien. Note moyenne.
Et puis par rapport à ce que je viens de dire, je crois que l'Afghanistan pratique toujours la peine de mort. Empêche pas qu'il y ait un nombre de tués... impressionnant.
C'est pas la peine de mort, mais il y a aussi des tortures.
Je crois qu'ils utilisent la peine de mort.
Des crimes tribaux aussi qui sont des crimes d'honneur, des choses comme ça. Bon, alors là, au-dessus de l'Amérique du Sud, les États-Unis, et ben quand même un très mauvais élève, même si les choses changent un peu. Au cours des 15 dernières années, la Cour suprême a aboli la peine de mort pour les personnes présentant des déficiences intellectuelles et celles âgées de moins de 18 ans au moment des faits. Je pense qu'Amnesty, on a pas mal de combats par rapport
la campagne,
à ça. Ça, c'est quelque chose de positif. Il y a moins d'exécutions, moins de condamnations depuis 10 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le débat public existe, alors qu'à un moment, c'était absolument inenvisageable aux États-Unis d'être pour l'arrêt de la peine de mort. C'était manifestement un prérequis quand on voulait avoir une fonction publique, fallait absolument défendre la peine de mort. Mais l'émergence de discussions au niveau de la société civile amène, et aussi de proches de victimes qui ne souhaitaient pas la peine de mort de la personne, de l'assassin, de leurs proches. Moi, je pense par rapport à Bear Woodfox, vous vous rappelez, qui lui, on sait qu'il était innocent, mais la femme du policier qui avait été tué avait dit « Mais moi, je ne veux pas qu'il soit tué, je pense qu'il est innocent, et ce n'est pas ça qui ramènera mon mari. » Voilà, donc il y a eu vraiment des réflexions par rapport à ça. Et donc, maintenant, Il est désormais possible pour des responsables politiques d'agir contre les exécutions, sans crainte de perdre la part de leur électorat. Ça, c'est très récent aux États-Unis, parce que c'était des positions carrément de partis politiques.
Il y a aussi le cas de Troy Davis, qu'on a beaucoup défendu et qui a fait bouger des choses, parce que la non-culpabilité de Troy Davis était à peu près évidente.
Voilà. Mais lui, il a été
exécuté.
Et il y a aussi des États qui ont aboli, ces 10 dernières années, 5 États ont aboli la peine de mort. Il y a des moratoires et des gouverneurs qui ont sauvé des condamnés à mort au dernier moment. Je n'ai pas les noms en tête, mais bon, c'est quand même quelque chose de vraiment
positif. C'est positif.
Alors, on va revenir après avec les produits létaux, ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc là, il y a actuellement une baisse des exécutions due en partie à des recours en justice portant sur les protocoles d'injection létale. Mais on est inquiet parce qu'on se demande s'il y a des décisions qui vont être rendues l'année 2017, voire 2018. Et il va peut-être avoir un nombre d'augmentations d'exécutions qui va augmenter, surtout dans l'Arkansas, parce qu'il y a un jugement qui va avoir lieu en avril prochain. Donc, des points positifs, mais quand même toujours des inquiétudes, et un des pays qui exécute le plus. Afrique. Alors, Afrique, quand on a commencé la campagne, il y a... Ah, Ronan me dit qu'il va parler d'Afrique aussi après.
Ah non, pas du tout, je n'ai pas dit ça.
Oh, il faisait des signes, je croyais que ça allait être
super. Non, je vais parler après, c'est sûr.
D'accord, il va falloir parler après. Donc, il n'y avait aucun pays qui était abolitionniste. Là, il y en a quand même, au cours des 10 années dernières, 9 pays ont abandonné ce châtiment cruel. Il y a vraiment un travail au niveau des textes de loi, au niveau l'exemple de la Côte d'Ivoire, où il y a une nouvelle constitution en 2000 et ils ont carrément aboli la peine de mort. Il y a aussi des tribunaux. La Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud qui a déclaré que la condamnation à mort était incompatible avec les droits humains et que c'était des traitements ou des châtiments cruels, inhumains et dégradants. C'est absolument... Ça rappelle Amnesty, ça, complètement. C'est surtout par rapport à ces commissions, la Commission africaine des droits de l'homme aussi, qui a, elle, tout le monde n'a pas encore ratifié le protocole de charte, mais ce travail, il se fait aussi au niveau de la loi, au niveau de la population, et il y a quand même de moins en moins de pays qui ont la peine de mort en Afrique. Alors Ronan, je pense qu'il veut parler un petit coup, on va le laisser parler.
Non, mais je voulais juste une petite bonne nouvelle que je suis en train de lire, que je viens de découvrir. Donc, je voulais en même temps vous demander, tout à l'heure, on ne se posait pas une question. Et là, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé le 20 septembre à travers plus de 200 villes et dans 60 pays dans le monde ?
Le 20 septembre ? Ouais. À travers 200 villes et 60 pays ?
Oui.
Oh là là, c'est la journée des devinettes, là. Hein. Une petite musique, là, pour nous aider à réfléchir.
Non, non. Bah, c'était pas loin de la réponse. Il y a eu 1000 musiciens qui ont uni leurs forces pour accueillir les réfugiés. Et en fin de compte, avec un seul message qui était donc de faire passer le message de solidarité, les réfugiés sont les bienvenus. Donc ça s'est passé le 27 ans, mais je viens de découvrir ça à l'instant, je n'étais pas au courant.
Ben non, comme quoi on peut même, sur des dossiers qu'on défend,
ça fait une grande partie de ma vie.
Qui ont joué de la musique à travers le monde, ouais. Tous ensemble. C'est beau.
Tout à fait, et j'ai trouvé ça, c'est pour ça que je me suis permis de passer le message.
Oui.
Je continue mon tour du monde. Là, c'est pas terrible, c'est l'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, condamnation des mineurs. Il y a eu 15 musulmans chiites qui ont été condamnés à mort. Et là, c'est pareil, on a une double lecture. On pense aussi que c'est une façon de l'Arabie Saoudite pour faire éliminer les droits, les gens qui veulent s'exprimer, qui sont dans l'opposition. Il y a effectivement beaucoup, beaucoup de peines de mort.
Hein. Mais les femmes, elles vont pouvoir conduire à partir du mois de juin.
Voilà, mais là, c'est
je sais que ça n'équilibre pas le truc, mais...
Non, c'est pas tout à fait le même sujet.
Donc là, c'est l'un des pays où on condamne encore et on exécute. On ne fait pas que condamner, on exécute. Chine, ça vous dit quelque chose,
Chine? La Chine, c'est une catastrophe en termes de peine
de mort. Le record du monde, je crois qu'ils ont le record.
C'est une caricature, on pourrait dire.
Surtout que les chiffres, tu ne les auras pas, je pense pas.
Alors Chine, c'est le secret. C'est carrément le secret. Ils parlent de certaines exécutions, mais si on commence à regarder les médias locaux, on en compterait beaucoup plus que ce qu'ils disent. Hein. Il y a un exemple, là. Au niveau, ce qui est officiel, 85, et peut-être 930. Par rapport à tout ce qui peut exister en Chine. Aussi bien aussi des ressortissants étrangers condamnés, et là on n'entendra jamais parler.
au moins 11 exécutions de ressortissants étrangers. Alors, le gouvernement chinois met en avant des révélations partielles pour prouver qu'il accomplit des progrès en ce qui concerne la réduction du nombre d'exécutions. Mais tout ça, c'est vraiment dans un secret absolu et malheureusement, il y a beaucoup d'exécutions.
Et en tout cas, en Chine, ça ne leur coûtait pas très cher, l'exécution, puisqu'ils faisaient rembourser la balle qui avait tué par les familles.
Et là, la Chine, c'est pareil, on ne sait jamais quand on va être exécuté.
Oui. Ben oui, c'est toujours la même forme de torture.
Quoi. Alors, ce que j'ai appris aussi au niveau de l'Asie, c'est le Vietnam. Eh bien, le Vietnam, malheureusement, comme la Malaisie, il y a aussi un nombre d'exécutions important, beaucoup plus qu'on pouvait imaginer. Et là, il y a eu des informations qui datent de février 2017 qui indiquent que ce pays se plaçait sans aucune communication officielle dans face État au troisième rang des pays ayant précédé au plus grand nombre d'exécutions, avec 429 exécutions entre le 6 août 2013 et le 30 juin 2016. Seuls la Chine et l'Iran ont procédé à plus d'exécutions. Et bah,
tout le Vietnam.
Le Vietnam, voilà. Mmh. Franchement, un pays aussi à surveiller et qui est dans la politique du secret par rapport à ça.
Enfin, malgré tout, il faut quand même souligner que le nombre d'États qui ont aboli la peine de mort a considérablement augmenté depuis les années 70.
Tout à fait.
Parce qu'on a dû passer de 35 ou 36 États à l'époque qui avaient aboli la peine de mort à 100, quelque chose comme 140 à l'heure actuelle.
Parce que le dernier, je ne sais plus qui c'était. On l'a dit pourtant il n'y a pas longtemps.
Oui.
C'est un tout petit. Oui,
tout à fait.
Le nombre m'échappe. Moi, mais je vois qui tu parles.
J'ai un trou de mémoire.
Oui. Bon, ben, je ne les ai pas tous notés parce que c'était trop long aussi, donc je ne pourrais pas vous aider. Donc, effectivement, Asie-Pacifique, encore beaucoup de travail. Hein, y a, donc, les derniers, c'est Nauru et Fidji. Papouasie-Nouvelle-Guinée, encore à la peine de mort. Tonga aussi. Alors, on ne va pas parler de... Quel pays tu voulais nous parler, Sabine ?
Non, une pétition, Malaisie, par rapport à...
Voilà, Malaisie, Philippines.
Aoyewa. Mais tu as fini ?
J'ai pratiquement fini. Voilà. On peut juste finir ça, puis tu vas nous. Parce que là, c'est une action sur le site.
Leur tour, on va être pris par le temps.
On va en parler un petit peu. On en reparlera en novembre.
Voilà. Non. Simplement, l'état des lieux, c'est qu'il y a des avancées. Il y a aussi des inquiétudes parce qu'il y a des retours en arrière, comme l'Inde qui a repris ses exécutions, l'Indonésie qui fait de même pour des infractions à la législation sur les stupéfiants après un arrêt de 4 ans, et comme le Pakistan. Voilà, donc à surveiller, à vous faire des points et surtout à signer pour défendre les gens qui sont condamnés à mort et qui risquent d'être exécutés.
Voilà. Et puis il y a aussi des pays qui veulent revenir vers la peine de mort. Il y a notre ami Erdogan en Turquie
voilà.
Qui a laissé entendre que la Turquie pourrait revenir sur l'abolition de la peine de mort qui a lieu chez eux. Mais Robert Badinter en a parlé sur Arte, effectivement, en disant que ça allait être compliqué parce qu'il y a des accords internationaux qui les empêchent de faire ce genre de choses, mais que peut-être il y arriverait et que dans ces cas-là, c'est ce qu'a dit Badinter, la Turquie retournerait à la barbarie.
Ouais, il y a 35 ans.
Oui.
Oui.
Alors... 2-3 minutes de musique et puis nos infos locales parce que l'émission est presque finie.
La pétition
Sabine, tu voulais parler.
Aoyewa, oui. Donc qui a été arrêté en Malaisie et qui a été condamné à mort puisque tous ceux qui se font arrêter avec de la drogue, de toute façon là-bas, c'est même pas la peine de discuter, c'est la condamnation à mort hein, de fait. Mais il a été arrêté en possession de 188 grammes 35 de méthamphétamine en 2005 et il a été condamné à mort en 2011. Il a été déclaré coupable sur la base d'une déclaration qu'il a faite au moment de son arrestation en mandarin et sans avocat. Il a toujours contesté le contenu. Il a, lui, affirmé qu'au cours de sa garde à vue au commissariat de Johor, le jour de son arrestation, la police lui a cassé les doigts, a menacé de rouer sa compagne de coups pour qu'il signe une déclaration. Le droit international interdit l'utilisation de la torture, déjà, le mauvais traitement, et l'utilisation de déclarations obtenues sous la contrainte. Donc là, on a tout faux sur toute la ligne. Hein. Et maintenant, il a 32 ans, il était dans le couloir de la mort, il y est toujours d'ailleurs. Il a écrit sur son enfance, sur sa vie dans une communauté défavorisée, qu'il avait quitté l'école à 11 ans, qu'il était passé comme cuisinier de rue, qui comprenait les décisions parce que qui s'était planté dans les décisions qu'il avait prises, mais qui regrette et qui veut passer une vie convenable, etc. veut prouver qu'il a changé. Et bon, on se dit que bon, par rapport à l'acte posé, c'était
voilà,
pas.
Ça s'appelle de la réinsertion. Voilà.
Il a donc, il a demandé en 2014 la clémence du sultan. Il n'a à ce jour toujours pas de réponse, mais il risque à tout moment d'être exécuté. Et là-bas, c'est par série. Donc, on vous invite à aller sur
le site d'Amnesty.
Voilà.
Il y a une pétition.
Et aller signer parce que ça peut tomber.
Tu nous rappelles son nom?
Howyew.
Vous regardez Malaisie.
W-A-H. Non, c'était, oui, Malaisie.
C'était pas pour poser une colle à Sabine, c'est voilà. Pas du tout ça, mais c'est pour que les gens s'en rappellent.
Je sais pas si ça se prononce comme ça, pardon, mais...
Rendant, tu nous mets 30 secondes de musique, parce que je voudrais quand même dire un petit mot sur le morceau qu'on va entendre, et après on finira l'émission. Donc là, on vient d'entendre, et on a toujours un fond sonore, c'est pas le 40e anniversaire d'Amnesty pour le prix Nobel de la paix, c'est le 70e anniversaire de la sortie de Sgt. Pepper's des Beatles.
Non, le 50e anniversaire.
70e.
Non, 50e, parce que c'est mon âge.
T'as raison,
c'était en 77.
Je suis désolé.
C'était enregistré à la Belle Oie dans
50e.
Il y a 50 ans, parce que j'y étais il y a deux mois.
Non, 70, c'était un peu exagéré quand même. Le 50e anniversaire.
C'est mon âge.
Voilà. Le 50e anniversaire. Et c'était un petit coup de cœur personnel parce que c'était un disque qui est absolument que j'adore. Sgt. Pepper's des Beatles.
Bon, alors voilà. Après la musique, moi je vous fais la pub pour un film qui va sortir. Oui. Alors à Évreux, il n'est pas prévu, mais j'espère qu'il va sortir.
Peut-être.
La Belle et la Meute de Kauter Ben Anya. Hein, c'est l'histoire d'une jeune femme, Mariam, qui en espace d'une nuit passe du statut de victime de viol à celle de femme forte et agissante qui commence à se battre. C'est sur la Tunisie.
Ouais.
Et voilà, si vous avez l'occasion d'aller le voir.
On vous recommande. On n'a lu que des critiques, mais ça a l'air très intéressant.
Et puis, je vous parlerai de l'Ouganda, réfugiée sud-soudanaise, à la prochaine émission.
Avec
parce qu'on aura le temps de faire.
Et la prochaine émission, qui sera le 31 octobre.
De faire les pétitions.
Le 31 octobre à 19h en direct sur l'antenne.
Est-ce qu'Halloween et Amnesty, ça va ensemble? Pas sûr.
Bon, j'aime pas ce genre de truc.
C'est deux sujets différents. Autre info quand même, on sera aussi la semaine prochaine, là c'est beaucoup plus près, le 25, mercredi prochain, on sera présent au Cube pour une soirée qui s'appelle, sur l'émission de notre, sur l'invitation du moins de notre radio préférée qui s'appelle Principe Actif. Et c'est une soirée qui s'appelle, c'est une grande première organisée par la radio. Donc au Cube, c'est la salle des musiques actuelles, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et qui s'appelle Principe Actif part en live. Voilà. Donc c'est une émission, nous on y participera. Et le thème de la soirée, c'est la découverte des cultures d'ici et d'ailleurs. Donc il y aura des invités, des événements, des interventions. Nous on prendra la parole aussi. Et il se passera effectivement, apparemment, plein de choses. Donc, on vous rappelle, on sera présent sur l'antenne de Principe Actif et présent au Cube.
On sera surtout, ils seront mercredi. Visibles. Moi, je ne serai pas là, mais voilà. Vous les verrez.
Et si vous êtes à Évreux, à partir de 20h, c'est une soirée gratuite. Donc, rendez-vous au Cube, salle des musiques actuelles, mercredi prochain, 25 octobre. Et puis, le 31, sur l'antenne de Principe Actif. Ouais. À bientôt.
Allez, bonne soirée à tous.
Bonsoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres.